Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du lundi 24 novembre 2014. Au micro, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, après plusieurs jours de tractations, le Burkina Faso a finalement un gouvernement de transition. Le président et son premier ministre se sont taillés chacun un Marocain et pas des moindres.
Le président de la transition, président du Faso, assume les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le premier ministre, chef du gouvernement, assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.
Carnage au Nigeria, le groupe Boko Haram a massacré 48 vendeurs de poissons au bord du lac Tchad dans le nord-est du pays.
Élection présidentielle hier en Tunisie, une première depuis la révolution de 2011.
Et puis l'ancien maire de Washington, Marion Barry, est décédé hier à l'âge de 78 ans. Il a dominé la politique dans la capitale américaine pendant des décennies, malgré les scandales.
Et en fin d'émission, vous aurez nos sports et la musique, mais avant, le journal.
Après plusieurs jours d'intenses tractations, le gouvernement de transition du Burkina Faso a enfin été annoncé dimanche soir. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les militaires se sont emparés de plusieurs portefeuilles clés, Henri Francisque.
Le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'homme fort du pays désormais intègre, depuis 3 semaines, cumule le poste de Premier ministre avec celui de ministre de la Défense. Et l'un de ses bras droits, le colonel Auguste Denise Barry, a été nommé au poste de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Au total, l'armée compte 4 membres, avec le ministère des Mines et celui des Sports, dans ce gouvernement de transition, qui comporte 26 portefeuilles et qui gérera le Burkina jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015. Le président de la transition, Michel Kafando, qui fut longtemps ambassadeur auprès de l'ONU, occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères.
Et à suivre dans la partie magazine de cette émission, le reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Le groupe Boko Haram a commis un nouveau massacre de 48 vendeurs de poissons au bord du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria, Idriss Fall.
C'est Aboubakar Gamandi, responsable de leur association, qui l'a annoncé hier, disant que l'attaque a eu lieu jeudi. Selon lui, des dizaines de combattants de Boko Haram ont bloqué la route près du village de pêcheurs de Dorombaga sur les rives du lac Tchad et ont tué un groupe de 48 commerçants, dont certains ont eu la gorge tranchée et d'autres ont été noyés dans le lac. Selon lui, les assaillants ont tué leurs victimes sans se servir de fusil pour ne pas attirer l'attention de la force multinationale. Dorombaga, au nord de Maïdougouri, est la base de la force multinationale comprenant des troupes du Nigeria, du Tchad et du Niger. En visite au Niger, le premier ministre français Manuel Valls a dénoncé un nouvel acte de barbarie illustrant la menace que fait peser ce groupe sur les populations du Nigeria et des pays voisins. L'état d'urgence en vigueur depuis mai 2013 a expiré jeudi et la violence continue dans les états de Borno, Yobe et Adamawa où des villes entières sont contrôlées par les islamistes.
Toujours au Nigeria, le principal parti d'opposition a accusé hier le pouvoir d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos. Le Congrès progressiste a affirmé que 28 employés avaient été arrêtés au cours de cette opération, menée tôt samedi matin par des agents de sécurité agissant apparemment sur l'ordre du gouvernement.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a déclaré hier qu'elle assurerait la formation de 150 personnes pour lutter contre le virus Ebola dans les 3 principaux pays touchés par la maladie, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Selon un communiqué de l'organisation, les personnes qui seront formées lors d'un stage de 5 jours, commençant dès aujourd'hui, sont originaires du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Mali.
En Tunisie, près de 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire leur président pour la première fois depuis la révolution de 2011. Il y a 27 candidats au fauteuil présidentiel. Halima Jimrao.
Bedi Kaïd Essebsi, 87 ans, est chef du parti Nida Tounes, vainqueur des législatives du 26 octobre, est arrivé en tête selon son directeur de campagne Mohsen Marzouk, qui affirme que son candidat n'est pas loin des 50%, mais ajoute qu'un second tour est fort probable. De son côté, l'équipe de campagne du président Moncef Marzouki a estimé que ce dernier était au coude à coude avec le favori SFC et qu'un deuxième tour devra les départager. Malgré l'interdiction de leur publication, la télévision d'État a annoncé hier le premier sondage à la sortie des urnes donnant plus de 47% à M. SFC devant le président sortant Moncef Marzouki, crédité de près de 27%. L'instance électorale a jusqu'au 26 novembre pour annoncer les résultats. Un deuxième tour est prévu fin décembre si aucun candidat n'obtient de majorité absolue. Ce scrutin a un caractère historique car depuis son indépendance, la Tunisie n'a connu que deux présidents, Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali, renversés par la révolution de 2011. Le berceau du printemps arabe est aussi une exception car beaucoup de pays arabes qui ont connu des révoltes populaires en 2011 ont sombré dans le chaos comme à Libye voisine.
En Égypte, une cour d'appel a confirmé hier des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour au moins 85 étudiants condamnés pour des manifestations de soutien au président destitué Mohamed Morsi. Des précisions avec Frédéric Nkoudikidje.
Une cour d'appel du Caire a retenu les peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour au moins 85 étudiants. Maître Mouktar Mounir a confirmé à l'AFP qu'une cour a confirmé le jugement à l'encontre de 85 étudiants, y compris 5 étudiantes pour de violents heurts à l'université Al-Azhar, où 14 étudiants ont été tués dans des heurts avec les forces de l'ordre pendant des manifestations pro-Morsi. Plusieurs centaines d'étudiants ont été jugés pour des violences dans les campus, bastion des partisans de M. Morsi, écartés par l'armée en juillet 2013. L'ancien président islamiste Mohamed Morsi et plusieurs responsables des frères musulmans sont actuellement jugés et passibles de la peine de mort. La répression sanglante du camp pro-Morsi s'est soldée par des centaines de morts et des milliers d'arrestations. Plus de 200 partisans de M. Morsi ont également été condamnés à mort à l'issue de procès expéditifs que l'ONU a dénoncé comme sans précédent dans l'histoire récente.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et d'autres puissances mondiales participant à des négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire veulent désormais jouer les prolongations. En effet, ce lundi est la date butoir et il n'y a toujours pas d'accord. Selon un haut responsable américain, le secrétaire d'État John Kerry a suggéré l'extension du délai à son homologue iranien, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, lorsqu'ils se sont rencontrés hier à Vienne.
Un vaisseau spatial russe Soyuz avec à son bord la première femme italienne de l'histoire s'est amarré sans encombre ce lundi à la Station spatiale internationale, annonce faite par la NASA. Le vaisseau s'est amarré à l'ISS à 2h49 temps universel. Il avait quitté les steppes kazakhs de Baïkonour dimanche à 21h01.
Une triste note pour refermer ce journal. L'ancien maire de Washington, Marion Barry, qui a dominé la politique dans la capitale américaine pendant des décennies, malgré des scandales, est décédé hier à l'âge de 78 ans. Henri Francisque.
Fils d'ouvrier agricole né dans le Mississippi, actif dans le mouvement des droits civiques, Marion Barry acquiert très vite de l'influence grâce à son charisme. Élu maire en 1978, il avait mis en place de nombreux programmes sociaux pour favoriser l'emploi des Noirs majoritaires dans la capitale américaine. En janvier 1990, après des révélations faites par une vidéo du FBI, il est envoyé en prison pour 6 mois pour usage et possession de drogue. Malgré cette mésaventure, il sera réélu une 4e fois en 1994. Des journaux l'avaient même surnommé « le maire à vie de Washington ». Seulement, pendant ce dernier mandat, la situation dans la ville se dégrade avec un déficit énorme et une augmentation de la criminalité. Même après avoir quitté la mairie, Barry n'a pas abandonné la vie publique. Il était redevenu conseiller municipal de Washington en 2005. Il était toujours jusqu'à sa mort hier dimanche. Dans un communiqué, le président Barack Obama a salué hier la mémoire de celui qui, selon lui, a participé à l'avancée des droits civiques pour tous.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Au micro, Bagassi Koura, on enchaîne sur la partie magazine de cette émission. En Tunisie, près de 5,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour choisir librement leur président. C'est une première depuis la révolution de 2011 et aussi une première depuis l'indépendance de ce pays. Il y a 27 candidats pour le fauteuil présidentiel. L'instance électorale doit annoncer au plus tard le 26 novembre les résultats. Un deuxième tour est prévu en fin décembre si aucun des prétendants n'obtient la majorité absolue. Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami du journal Le Quotidien à Tunis.
Le second tour se tiendra normalement entre le candidat de Nida Tounes, Beji Qaïd Essebsi, c'est-à-dire le parti victorieux des législatives, et le président sortant, Moussouf El Marzouqi, le leader historique du parti CPA. Ces deux candidats sont sortis premier et deuxième de l'actuel tour des présidentielles, avec une avance consistante quand même de Beji Qaïd Essebsi qui aurait plus que 40% des voix, alors que Moussouf El Marzouqi aurait quelque chose comme 30% des voix. Les résultats que nous avons sont essentiellement des résultats de sortie des urnes, car l'ISI promet les résultats officiels dans 24 heures au moins.
Mais Saïd Essebsi, quand même, il est assez âgé, non? Il a presque 87 ans.
C'est vrai. Là, c'est la défaillance de la classe politique tunisienne à se régénérer, en quelque sorte, c'est-à-dire à créer une relève. La Tunisie n'est pas parvenue à créer une relève. D'ailleurs, pratiquement la majorité des 27 candidats qui se sont présentés à la présidentielle ont des âges supérieurs à 60, voire 70 ans. Donc, ce n'est pas l'exception à Beji Qaïd Essebsi. La classe politique tunisienne n'a pas assuré de relève.
Mais que sont devenus les islamistes d'Ennahda dans tout ça?
Les islamistes d'Ennahda, selon tous les observateurs, les islamistes d'Ennahda ont soutenu le président sortant, Moussouf El Marzouqi. D'ailleurs, concernant les observateurs pour les présidentielles, les observateurs désignés pour Moussouf El Marzouqi sont en majorité ceux-là même qui étaient pour Ennahda lors des législatives.
Et pourquoi dit-on que ce scrutin a été historique pour la Tunisie?
Il est vrai que le scrutin est historique, pour la bonne raison que c'est la première fois en Tunisie, les électeurs qui se rendent aux urnes élisent librement et d'une manière démocratique leur président, et que le nom du président n'est pas connu d'avance. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement s'il y aura deuxième tour, ce qui est à peu près sûr, ou il n'y aura pas. Donc ce suspense, cette vie démocratique réelle en Tunisie, on ne l'avait jamais vécu auparavant.
Voilà, on ne l'avait jamais vécu auparavant. C'est notre confrère Mourad Selimi, directeur du journal Le Quotidien à Tunis. Voilà, revenons sur ce gouvernement de transition au Burkina Faso qui a été annoncé hier soir. Un gouvernement de 26 membres qui va conduire le pays jusqu'aux élections générales de 2015. Et que peut-on donc retenir? Sans surprise, les militaires qui détiennent le premier ministère se sont emparés de plusieurs portefeuilles clés. Reportage à Ouagadougou de Zoumana Onogo.
Après plusieurs jours de tractation, finalement, c'est ce dimanche que le gouvernement de la transition a été rendu public. Il compte 26 membres partagés entre les partis politiques, la société civile et l'armée. De ce gouvernement, il y a une particularité. Découvrons-la avec Alain Ouattara, le secrétaire général du gouvernement.
Le président de la transition, président du FASO, assume les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le premier ministre, chef du gouvernement, assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.
Sur le point précis du président du FASO, cumulant les fonctions du ministre des Affaires étrangères, suivant le commentaire de Bourayma Djiga, il est le président des journalistes culturels du Burkina.
Pour moi, s'il y avait cumul, encore que moi je ne sais pas ce qui justifie d'ailleurs ce cumul, s'il y avait cumul, il pouvait cumuler par exemple avec le poste de ministre de la Défense, chef suprême en même temps des armées. C'est vrai que je m'excuse, on me dira peut-être qu'il a voulu copier Blaise Compaoré, qui n'est peut-être pas un exemple aujourd'hui. Mais bon, ça c'était moins lourd que vraiment le portefeuille des affaires étrangères. Nous sortons d'une crise, il faut donner l'impression que c'est un Burkina qui se réveille avec tous ses fils. Il y a des compétences à tous les niveaux, il y en a partout et je pense qu'on ne manque pas effectivement de diplomates compétents et chevronnés pour pouvoir occuper ce portefeuille.
Pour Marcel Tankouanou du M21, mouvement créé contre la modification de la constitution, il faut tout simplement aider ce gouvernement.
On est content de ce gouvernement. Maintenant, il faut les accompagner. Quand je dis de les accompagner, je vais dire tout simplement parce que nous avons des commentaires un peu divers. À l'heure actuelle, je pense que nous n'avons pas besoin de commentaires diversifiés. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter pour un moment donné. Un moment donné, c'est quoi? C'est 12 mois. C'est pourquoi j'ai dit il faut les accompagner, il faut les accepter et les accompagner. Je pense que ceux-là même qui les ont proposés savent que plus rien ne sera comme avant, ils n'ont pas droit à l'erreur.
Bien que les Burkinabés aient découvert tard le nouveau gouvernement, il se murmure déjà des appréhensions sur le ministre Adama Sagno en charge de la culture et du tourisme. Il était le procureur au moment de l'affaire Norbert Zongo, notre confrère assassiné en 1998. Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Des accrochages entre parlementaires et policiers jeudi devant l'Assemblée nationale du Nigeria continuent de défrayer la chronique à travers le pays. Les membres de la société civile ainsi que les électeurs de l'État méridional du Delta du Niger, un bastion du président Goodluck Jonathan, s'inquiètent des conséquences possibles pour la présidentielle de l'année prochaine. Un reportage réalisé sur place par Chris Stein et Hilary Uhuru de la VOA est présenté ici par Lionel Gaïma.
C'était un spectacle affligeant, choquant que les Nigériens ont suivi sur le petit écran ce jour-là à l'Assemblée nationale. Nombre d'observateurs considèrent ces événements comme symptomatiques de la montée des tensions au Nigeria à moins de 3 mois de la présidentielle de février. Ibrahim Ibrahim, directeur du Centre pour la démocratie et le développement d'Abuja, craint que les forces de sécurité se mêlent de politique en tentant d'empêcher le président de la Chambre, Aminu Tambuwa, de mettre pied dans le bâtiment. Tambuwa s'est attiré le courroux des membres du PDP au pouvoir pour avoir récemment fait défection et adhéré à l'APC, le principal parti d'opposition. Quand les forces de sécurité ne sont pas neutres et apolitiques dans leurs actions, estime Ibrahim Ibrahim, cela crée alors de sérieux doutes sur la consolidation de la démocratie. Donc ce sont des événements très inquiétants et nous sommes tous très bouleversés de voir une telle chose se passer. Beaucoup d'États du Delta du Niger, zone pétrolière du Sud, sont des bastions du PDP. En fait, le président Jonathan, qui est un ancien gouverneur de l'État de Bayelsa, avait obtenu plus de 98% de suffrages en 2011 dans la région. Le parti au pouvoir a demandé vendredi une enquête sur l'incident de jeudi devant le Parlement, mais un de ses activistes dans le Delta, Onakpoma Ovi-Joseph, pense que cela pourrait amener les électeurs à croire que les forces de sécurité sont hors de contrôle, ce qui ne serait pas une bonne chose pour leur parti. Eh bien, je suis contre ce que le gouvernement a fait et cela va lui être très préjudiciable en valant à l'opposition des votes basés sur la sympathie. Le parti d'opposition, APC, est en réalité le résultat d'une fusion l'an dernier entre 4 des principales formations d'opposition. Le PDP est uni derrière M. Jonathan pour un second mandat, mais l'APC n'a toujours pas choisi son candidat. Gabriel Osaken avait voté la dernière fois pour Goodluck Jonathan, en partie parce qu'il est de la région du Delta. Maintenant, il n'est plus sûr. Des événements comme ceux de jeudi, devant le Parlement, ternissent, dit-il, l'image du président. En tant que citoyen de ce pays, ce sera un défi pour moi en 2015. Un problème parce qu'il doit faire attention à tout cela. Tout le monde dit maintenant et chaque jour que le président n'est pas compétent. Les parlementaires devaient, lors de la session avortée de jeudi, se prononcer formellement sur la récente requête de M. Jonathan pour proroger l'état d'urgence dans 3 États du Nord où sévit Boko Haram. Pourtant, la veille, ces extrémistes avaient tué 45 personnes à Azayakoura, un village de l'état de Borno, un des 3 États en question.
Voilà, ça fait déjà 25 ans que la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par les Nations Unies. La journée du 20 novembre dédiée à cette convention a été célébrée sous le thème « Innovons pour les enfants ». Clin d'œil ce matin sur la situation des enfants en RDC et plus particulièrement au Nord Kivu où ces enfants sont malheureusement enrôlés dans les groupes armés et les violences faites aux femmes ne cessent de se multiplier. Reportage de notre correspondant au Nord Kivu, Primo Pascal Rudaigua.
La situation des enfants est surtout critique dans les territoires des Walikale. Ils sont souvent enrôlés par force dans les groupes armés. C'est ce que déplore Bindu Mishiki du groupe d'action pour la protection de l'enfant.
En territoire de Walikale, nous voyons que les enfants sont dans une mauvaise situation. Dans les périphéries, par exemple, les groupes armés utilisent les enfants. Il est impérieux que les humanitaires comme nous puissent aussi intervenir dans tous ces secteurs en vue de voler au secours de ces enfants dans les domaines de la santé et aussi retirer ces enfants des forces et groupes armés. Ce que nous faisons actuellement, c'est la sensibilisation et retirer ces enfants des groupes armés comme les Raya Mutomboki, les NDC de Cheka, les Mai Mai Kifuafua de Delphin. Et nous avons déjà fait démobiliser 120 enfants de ces groupes armés et ils ont déjà repris leur vie civile et d'autres ont repris le chemin de l'école.
Les enquêtes menées à Goma par les enfants eux-mêmes révèlent que les violences infligées par les enseignants sont caractérisées par des harcèlements sexuels et les frustrations dues aux injures des parents. Arthur Kassawi est membre du Haut Conseil du Parlement d'enfants du Nord Kivu.
Surtout pour les jeunes filles, elles sont toujours victimes de ces abus-là, soit du harcèlement ou bien soit de ces abus-là sexuels par rapport à leurs enseignants aussi. On a remarqué que la majorité des auteurs par rapport à ces violences, ça, ce sont les parents. Première des choses, c'est que les parents injurient d'abord les enfants.
Pour Émile Mouderoy, chargé de la protection de l'enfant à la division provinciale du genre au Nord Kivu, les sensibilisations sont faites à tous les niveaux pour rétablir les enfants dans leurs droits.
Si vous prenez rien que le phénomène d'enlèvement d'enfants, c'est un problème que nous connaissons et nous faisons des sensibilisations pour que les parents prennent des mesures pour bien garder leurs enfants. Le problème des harcèlements au niveau des écoles, les harcèlements au niveau même dans les quartiers, ça aussi ce sont des problèmes que nous connaissons et nous sensibilisons dans ce sens-là.
L'ONG internationale World Child a disponibilisé un numéro vert, le 117, pour les alertes relatives aux droits de l'enfant en RDC. Marcelin Moulin Aouko est de Wild Child.
Le 117, vous et moi sommes rassurés que c'est une innovation au niveau de la RD Congo, mais ce n'est pas vraiment une innovation pour beaucoup de pays. Nous étions encore arriérés, mais pour nous, c'est une innovation. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à ça. L'innovation, c'est également la participation, faire participer l'enfant.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Voilà, c'est l'heure des sports. Dans cette édition, on commence par du football au Cameroun. C'est le Coton Sport de Garoua qui a remporté la Coupe nationale en battant Panthère du Ndé 2-0 dimanche à Yaoundé. Le club du Nord réalise ainsi le doublé. L'ancien attaquant international libérien James Deba a été nommé sélectionneur du Libéria. Le pays de George Weah n'a pas pu se qualifier pour la phase finale de la CAN 2015. L'AS Pekin a remporté la deuxième édition du Trophée des champions du Sénégal en battant Guédiaouaye FC 1-0 hier à Guédiaouaye dans le nord de Dakar. Le match du Trophée des champions a opposé l'AS Pekin, champion et vainqueur de la Coupe nationale, à Guédiaouaye FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue. En France, 14e journée de la Ligue 1, Marseille a repris la tête du championnat de France en renversant Bordeaux hier soir 3-1 et possède un point de plus que le PSG. Hier après-midi, Montpellier a battu Toulouse 2-0 et voici le classement dans la Ligue 1. Les trois premiers sont donc Marseille avec 31 points, suivi du Paris Saint-Germain 30 points et de Lyon qui a 27 points. La lanterne rouge, c'est bien sûr Lens. En Espagne, Cristiano Ronaldo du Real Madrid est en tête du classement des buteurs avec 20 buts. Il devance le Brésilien Neymar du FC Barcelone, 11 réalisations. Lionel Messi également du Barça qui est troisième avec 10 buts. Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Hier soir, Memphis a battu les Clippers de Los Angeles 107-91. Boston est tombé face à Portland 94-88. Miami a battu les Charlotte Hornets 94-93 et enfin défaite de Oklahoma face aux Golden State Warriors 86-91.
Après le sport, on passe à la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi, le groupe Zouk Machine, originaire de Guadeloupe, a fait bouger le monde et plus particulièrement l'Afrique vers les années 90 avec la chanson « Mal donne », la musique dont la peau. Ce single était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. « Mal donne ».
fondée par les deux membres du groupe Expérience 7, Guy Houllier et Yves Honoré. Le groupe Zouk Machine connaît très vite le succès dès son premier album avec le titre « Sauver l'amour » en 1986.
Oui, Bagassi, le succès est tellement grand que les filles remplissent le Centre des Arts en Guadeloupe pour un concert en compagnie de Tania Saint-Val et d'Expérience 7. L'album s'évend à plus de 100 000 exemplaires sur les Antilles uniquement. Après une signature chez BMG, le succès du groupe dépasse largement la communauté antillaise et le remix de cette chanson, Maldonne, la musique dans la peau, restera numéro 1 au top 50 durant 9 semaines en 1990. Devenons ainsi le titre Zouk le plus vendu de tout le temps encore à ce jour, Bagassi.
Zouk Machine, Maldonne. Merci Roger.
De rien, Bagassi. Merci à tous nos fidèles auditeurs à Cocody, à Abidjan.
Roger Moutou que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h, temps universel. Avec la musique et Roger Moutou que s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de la Voix de l'Amérique. Au micro, c'était Bagassi Koura. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Africa.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.